Je voudrais te raconter un cheminement que j'ai fait avec Bata et Kierkegaard notamment. Autour du rapport qu'il y a entre l'angoisse et la liberté. C'est-à-dire en fait ce qu'il en est de l'engagement. De s'engager dans la vie. Avec notre cœur. Parce qu'il me semble que nous autres, quand on a affaire à quelque chose d'authentiquement important, nous apercevons que nous sommes au bord du gouffre. À cet endroit-là, au bord du gouffre, c'est dans la possibilité de crier en dehors de nous-mêmes que va se révéler la vie. On envisage de sauter. Mais cette éventualité-là, du saut, m'écorche vif. C'est même ça qui va me rendre plus vif que jamais. Sur l'autre rive du gouffre s'étend la folie, l'interdit, la perdition. Mais tant que je reste tout seul et intègre sur ma rive, je constitue mon cadavre. N'y a donc que dans ce saut que j'adviens. La position qui est au-dessus du gouffre est intenable. Mais si elle n'existe pas, alors nous pouvons mourir sans attendre. Puisque tout ce qui aurait d'autre à attendre, ce serait de non-vivre notre cadavre. Devons donc sauter. Mais cette possibilité de nous jeter dans l'expérience d'un absolu et la difficulté qui est inhérente à cette possibilité, en fait, elle s'offre pas à nous une fois qu'on est responsable, elle s'offre à nous très très tôt, dès la petite enfance. Dès que le monde humain s'ouvre à nous. On est un peu dans le même état à ce moment-là que Adam et Ève au jardin d'Éden. Où il y aurait Dieu, notre Père, qui nous dit qu'on peut jouir de tout, mais pas des fruits de l'arbre du bien et du mal. Adam, sans doute que au moment où Dieu lui dit ça, sans doute qu'il se sent comme un idiot, Un peu comme l'enfant face aux injonctions absurdes du monde des adultes. Il peut pas comprendre lorsqu'on lui dit c'est mal. Mais par contre, il comprend par cette interdiction qu'il a le choix. Du coup, c'est dans cette interdiction que nous, les hommes, dans notre enfance, nous sommes mis face à la possibilité de pouvoir, face à la liberté et à ce qu'on appelait la peccabilité, c'est-à-dire la possibilité de pécher, de faire le mal. Et cette possibilité-là, ça excite notre curiosité. Mais ça nous angoisse en même temps. L'angoisse, on peut dire que c'est l'émotion qui est vécue à l'approche de l'objet du désir. Parce que nous souhaitons nous y jeter dans cet inconnu. Dans le possible qui nous tend les bras, là, de. Un peu de biais, pas. C'est pas vraiment de face. C'est possible, il passe son temps à se dérober. L'habitude nous rassure. Mais nous ennuie aussi. Mais à l'opposé, la possibilité offerte par l'inconnu nous met dans un état de tension, de trac, dans l'angoisse. Cette angoisse, on l'entend dans les paroles de Dieu à Adam. Lorsqu'après lui avoir dit qu'il pouvait manger de tous les fruits du paradis, sauf de ceux du bien et du mal, Dieu lui dit, si tu en manges, tu mourras. Ce que mourir veut dire, Adam n'en a aucune idée. Mais on peut imaginer quand même qu'il sent derrière ce mot l'horreur indicible de cette disparition, le non-savoir absolu du néant qui l'attend. Cette fin, ce bord, détermine toute la condition humaine. Chacun d'entre nous repart de l'enfance vers cet inconnu qu'est la mort. Elle est notre fin. Mais qui veut gagner sa vie la perdra. Prendre la question du saut dans l'existence avec sérieux, religieusement, comme un absolu, ça nécessite que nous prenions un certain nombre de précautions. Car il y a un très gros risque que nous prenions nos bonnes intentions. Pour aller draguer les autres. Un peu comme on prendrait des mocassins tout brillants là, qui nous permettraient de rentrer dans un nightclub un peu chic, où il y aurait de belles personnes. Beaucoup d'êtres humains savent où est le chemin, mais sa clarté s'oublie. Nous en détournons. Tellement souvent. Or, on peut se prédisposer. Il y a une vérité de l'ambiance intérieure qui nous dispose à entendre la vérité de la voix qu'on essaye de suivre. Cette voix n'est pas un choix esthétique. Il suffit pas d'avoir l'air assez frais ou assez mélancolique pour être profond. C'est pas non plus un agencement conceptuel, cette voix, qu'on pourrait argumenter avec la froideur, le désintéressement qui sont nécessaires à la dialectique éristique. Elle n'est pas non plus une passion soudaine dont on s'éprend parce qu'elle fait vibrer les cordes les plus infimes et les plus justes de notre sensibilité au monde. Elle n'est pas une éthique dont le but atteignable pourrait nous garantir l'accession à une sorte de statue auquel accéder au milieu des anges. En fait, elle n'est du ressort d'aucune branche de la connaissance. Elle est la voix solitaire qui appelle la solitude du cosmos, un grand cri dans la nuit, dans un désert, à la discrétion de ses grains de sable. La voix répète son appel à l'adresse des entrailles de la terre et des racines du ciel avec patience, avec douceur. Il y a des larmes très douces à chaque fois qu'il y a les retrouvailles entre nous-mêmes et ce qui nous conduit. Ces retrouvailles, elles sont à refaire chaque fois. La voix s'appuie sur une loi éternelle. Mais on peut avancer vers elle en vivant que tremblant et craintif face à la violence de vivre, en vivant la médiocrité de notre condition. Mais une fois encore, il ne s'agit pas de tomber dans la facilité. S'adresser le reproche de notre propre insuffisance. Après un sourire sur notre propre présomption, nous devons repartir sans oublier le chemin. Pour reprendre un peu succinctement le chemin que je te propose de suivre, au travers de ces paroles, Il me semble que la possibilité de pouvoir naît de la possibilité de nous détourner de la voie. C'est parce que nous pouvons ne pas écouter ce vers quoi nous engage notre cœur, ce que nous percevons comme juste, que nous sommes sujets, que nous sommes acteurs de notre destin. La défense de faire mal est générative du désir. La distinction du bien et du mal ne se fait qu'avec la jouissance. L'angoisse s'éclot avec la possibilité de pouvoir. Elle est crainte du vide, du néant, mais elle indique un savoir, le passage de l'innocence à la peccabilité, qui est elle-même très liée à la sensualité, à la différence des sexes. Il y a une évidence qui surgit pour les pécheurs Adam et Ève au moment de la morsure du fruit de l'arbre du bien et du mal. Ils virent qu'ils étaient nus.
don't you knew? No, 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 don't you know I need you, Lord? Don't you know that I need you? Don't you know?